Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast lancé sur serialgamer.fr, un podcast donc animé par Anthony.
Oui, bonjour à tous.
Et par moi-même, Ludovic. Donc voilà, ce podcast, c'est une idée qu'on avait depuis quasiment un an, qu'on a réussi à concrétiser aujourd'hui, et donc on lance le premier numéro en espérant que ça vous plaise.
Dans ce podcast, on aura plusieurs rubriques. On commencera par une rubrique news qui sera présentée par Ludovic. Ensuite, on passera à une rubrique test. Alors, un test qui interviendra sur un jeu sorti récemment ou qui sortira un peu plus tard puisque les multiplateformes ne sortent pas forcément à la même date. Et on terminera tranquillement par un débat. Débat d'ailleurs où on aura deux invités.
Voilà, donc Simon, si
bonjour.
Tu peux te présenter.
Bonjour, je m'appelle Simon. Je travaille chez la société Eggball qui crée des jeux vidéo pour mobile, iPhone, iPad, Android.
Ok. Et donc Guillaume qui est avec nous aussi, qui va participer à ce débat, tu peux te prendre aussi.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Ballet, je suis environnement artiste chez Spider Studio. Et en ce moment, j'ai pu bosser sur Forgotten Man.
C'est quand même la classe.
Projet, et un autre projet
un peu plus secret.
Voilà. Qui n'a pas été annoncé encore.
Il a été annoncé, mais je reste.
D'accord, ok.
On en parlera.
Et
pas.
Donc toi, je reviens dessus, Simon, tu as travaillé aussi sur Jazz.
Oui.
Donc le gros jeu iPhone du moment, félicité par tout le monde, par la critique, par la presse.
Merci à vous.
C'est plutôt cool.
Mais donc là, on a deux personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo. On n'aura pas forcément tout le temps deux personnes qui travaillent dans ce milieu.
Mais voilà, on aura aussi des joueurs lambda qui viendront pour partager leurs avis, pour dire ce qu'ils pensent de ce milieu-là. Et voilà, histoire de toucher un peu tous les publics. Voilà, donc on va enchaîner, on va commencer surtout sur la partie news. Alors, récemment, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité jeux vidéo? Pas mal de choses. On commence par la première, c'est la première rumeur de prix pour la Wii U. Donc, on a appris d'une source canadienne, le site Forget the Box, on peut le citer, qui aurait des contacts avec des sources anonymes impliquées dans la manufacture de la prochaine console Nintendo. Et voilà... D'après ce qu'on sait, pour l'instant, son coût de production serait de 180$, donc environ 138€. Et voilà, et environ 50$ pour la tablette, donc 38€. Donc après, si avec ça on rajoute les taxes, le packaging, le marketing et tout le reste, le prix devrait situer entre 259 et 299€ pour l'Europe. Si c'est vrai, ça confirmerait en fait que les rumeurs persistantes comme quoi la Wii U serait bel et bien moins puissante que la PS3 ou la 360. Donc voilà, affaire à suivre.
Moi, ça me semble assez logique. Enfin, Nintendo a jamais fait des consoles surpuissantes, plus innovantes que surpuissantes. On voit par exemple avec
voilà,
le DS, le tactile.
Ils le disent eux-mêmes, ils misent tout sur le gameplay et pas sur les graphismes. Donc au final, on peut vraiment s'attendre à quelque chose de moins puissant que les consoles actuelles. Quoi.
Clairement, clairement. Mais 300€, ça me semble plus proche de 300 que de 250 par contre. Hein. Ça ouais. Me paraît peu cher, 250 pour une console, quand on voit que c'était le prix de la 3DS au départ. Hein.
Oui, voilà, donc ce sera à voir. On reste chez Nintendo pour la news suivante. Donc c'est la 3DS qui s'invite au Louvre. Donc voilà, pour les amateurs d'art et de musées, sachez que la 3DS est maintenant disponible en location dans les musées, donc en partenariat avec Nintendo et Shigeru Miyamoto, donc le papa
qui s'est beaucoup impliqué dans le projet. Hein.
C'est vrai, en plus, ouais, exactement. Donc le Louvre a développé un audio guide, sur la console Nintendo. Donc elle permettrait entre autres de se localiser plus facilement dans le musée et de voir les œuvres en 3D. Donc il y aura sûrement d'autres fonctionnalités qui utiliseraient donc toutes les capacités, si vous voulez, de la
console. Des informations sur le tableau, quand est-ce qu'il a été peint, tout ça.
Exactement.
Et il semblerait même qu'il y ait un petit Easter egg caché à côté du tableau du Louvre. J'en dis pas plus. À côté du tableau
la Joconde, pardon.
Ouais.
Et ben on ira voir ça dans le musée. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il faudra débourser 5€ pour la louer dans le musée. Troisième news, et pas des moindres, c'est la grosse gourde, ou alors le buzz raté d'Origin. On a vu récemment, il y a 2-3 jours, que en lançant Origin, en fait, un utilisateur du forum NeoGaf est tombé sur une série de publicités mettant en avant une couverture de jeu. On peut voir un homme en nanosuit tenant un arc. Donc ça nous rappelle forcément Crysis. Donc voilà, la pub était accompagnée du titre Crysis 3 Limited Edition. Donc est-ce une grosse bourde d'Origin qui aurait mis ça sur sa plateforme de téléchargement non volontairement, on ne sait pas, ou alors un buzz totalement raté en disant tiens, on va faire une pub un peu passe-partout et finalement les gens la verront
je pense vraiment que c'est sorti sans le vouloir.
Je pense que c'est vraiment une grosse bourde, et justement Crytek a annoncé récemment à demi-mot via son compte Twitter
qu'il y aurait une annonce le lundi 16 avril.
Voilà, et elle dit d'ailleurs alors, les meilleurs secrets concernant les jeux de tir ne peuvent simplement pas être gardés. Restez connectés, de nouvelles informations seront dévoilées le 16 avril. Donc voilà, le 16 avril on en saura peut-être un peu plus sur Crysis 3. En attendant, voilà, c'est officiel à demi-mot, mais c'est une grosse bande quand même de Régine et d'EA qui a complètement foiré son truc.
Mais je pense que le tweet est clairement fait pour essayer de rattraper ça, de dire on a fait exprès.
Ah oui, ils ont fait une grosse connerie, de toute façon ils peuvent pas revenir dessus.
Ah,
c'est clair et net. Et la dernière news, donc c'est Valve. Valve, on en a entendu parler récemment, qui a fait un peu des vagues dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi Valve lancerait un hardware, donc une console de jeu qui serait oui.
Oui, moi je suis pas totalement sûr que ce soit une console de jeu. Ils peuvent aussi mettre une puce dans une console, par exemple, une puce ou un moteur graphique, ou ils peuvent se servir juste de la technologie de Valve.
Ouais, mais je pense que Valve a quand même vachement autonomie, vachement un nom assez important dans le domaine pour carrément se permettre de lancer une console.
Donc toi,
quoi,
tu pourrais vraiment une console.
Ah, mais totalement, c'est carrément un cœur du truc. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette rumeur a été démentie récemment par Valve lui-même, comme quoi c'était absolument pas prévu. Et on apprend en fait récemment qu'on a retrouvé en fait dans les listings de recrutement de la société qu'elle recherchait actuellement des ingénieurs. Et l'annonce qui a été postée, dans cette annonce, il y avait le message suivant. Alors, une équipe hautement motivée qui travaillera à la réalisation de design, de tests, de production de hardware. On ne parle pas de souris ou de gamepad ici. Aidez-nous à créer de nouvelles expériences de jeu. Donc concrètement, voilà, c'est assez flou, mais je suis quasiment sûr que Valve se permettrait de lancer une console. Soit une sorte de PC, de petit PC portable qu'on pourrait tuner un peu pour améliorer les performances, mais qui aiderait au développement des éditeurs et des éditeurs indépendants. Et voilà, mais je suis quasiment sûr que ça va être une nouvelle console. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais...
Simon,
moi je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Je pense qu'ils peuvent, se permettre d'en sortir une avec le succès de Steam.
Voilà, c'est bien ça. Ouais.
Son succès de plateforme. Donc pourquoi pas aussi voir un nouveau modèle de paiement pour arriver avec une nouvelle façon de jouer, un peu comme Live ou d'autres plateformes comme ça.
Par contre, on est d'accord que ce serait du dématérialisé pur.
Je pense. Ça va être en accord avec son temps.
Ouais, je pense qu'il est, il est temps aussi, je pense.
Ok, donc voilà, c'est tout pour les news. Donc les invités, si vous avez des réactions à faire sur ces quatre nouvelles de la semaine précédente, à vous la parole.
Donc,
Guillaume,
moi j'aimerais sans doute parler de la Wii U.
Ouais. Et de son prix, j'imagine.
Le prix assez utopique de 300€, ça serait vraiment boîtier nu, sans rien. Connaissant Nintendo et tous leurs gadgets, les accessoires qu'on adore d'ailleurs.
Ouais, d'accord, mais regarde la Wii à sa sortie, elle coûtait combien?
La Wii à sa sortie, je me souviens pas, c'était 200€.
Voilà, elle coûtait pas plus cher.
Oui, voilà, c'est ça, mais à rajouter à ça tous les gadgets, ta console, tu l'as à 700€.
Ouais, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que théoriquement, quand la Wii sortira, il y aura qu'une tablette tactile par console. Donc après, on peut bien s'imaginer qu'il faudra débourser une €50.
Sauf qu'on sait même pas si on pourra mettre plusieurs mablettes.
Voilà, et encore, c'est même pas prévu qu'on puisse poser plusieurs mablettes, donc la combinaison de tablettes et de manettes, c'est ça, merci. et ouais, ça c'est même pas sûr. Donc et si c'est possible, faudra débourser encore par la suite des sous.
À la manière d'un Wii Motion Plus ou d'un Circle Pad Pro pour la 3DS, quoi. C'est vraiment Nintendo, c'est, on vend des consoles en kit. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, reste sur les dernières consoles de Nintendo. T'achètes une console et t'achètes le reste à côté, quelques années après ou quelques mois. Enfin, tu vois pas l'intérêt de sortir une console qui n'est pas terminée.
Bah, à savoir aussi si les jeux vont pas être en kit aussi, c'est-à-dire que...
En DLC,
ouais,
tu veux dire?
Ça, avec la mode
des
DLC.
Ça, à savoir acheter le jeu sur la mablette et le jeu sur la...
Ah, toi tu penserais qu'il y aurait carrément deux différences.
Je pense qu'ils seraient capables. Ouais.
J'espère qu'ils sont pas aussi vicieux, mais l'avenir nous le dira. Hein.
On verra bien, ouais.
Et je crois que tu voulais aussi réagir sur Steam.
Oui, comme vous tous, je pense que oui, Steam peut faire du jeu vidéo à grande échelle, donc vraiment pour les gamers de salon. Quoi. Mmh. Et pourquoi pas implémenter ça dans les nouvelles télé. On voit que Samsung a fait un partenariat avec Windows, une sorte de Mac Air, la version Samsung. Alors, on se dit bien que Valve serait capable de faire un partenariat avec un gros constructeur. C'est pas lequel, et pour implémenter une puce Steam reliée directement à Internet, mais voilà. Par contre, ça implique forcément une connexion au débit.
Ouais, mais de toute façon, je pense que les futures consoles, il y aura beaucoup, beaucoup plus de dématérialisés quand on voit déjà la PS Vita aujourd'hui, qui mise quand même vachement là-dessus, avec leurs cartes mémoire qui ont jusqu'à 32Go pour le moment. On peut se dire qu'on est quand même.
Ouais, mais ça reste triste le dématérialisé quand même.
Ça, c'est un autre débat qu'on aura un autre jour.
Ouais, d'accord, moi, c'est un truc qui personnellement, ça me fait flipper quoi.
C'est un autre débat, c'est un autre débat.
Plaisir.
On en reparlera plus tard.
On en parlera un autre jour.
Ouais, c'est tout pour les news, on va passer maintenant au test de la semaine.
Et le test de la semaine, ce sera Rayman Origins. Parce qu'il est sorti, bon, il y a un petit moment sur console HD, c'est vrai, mais il est sorti récemment avec la PS Vita. Et il est sorti très très récemment sur PC. Et il sortira bientôt sur la 3DS. La date est sans cesse repoussée, mais visiblement ce sera début juin et ça a l'air d'être sûr. Donc j'avais envie de parler de ce jeu parce que, sincèrement, c'est une des grosses claques que j'ai prises cette année. Et d'ailleurs l'année dernière, puisqu'il est sorti sur console HD, j'ai même racheté sur PS Vita, tellement j'ai aimé ce jeu. Graphiquement, je pense que il est au-dessus de tout ce qui se fait actuellement. Quand on voit qu'il a été dessiné main à, je crois, 95%, et le rendu final est vraiment magnifique. Je sais que toi, tu bosses un peu dans tout ce qui est design.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses des dessins de Rayman?
Après, moi, je suis pas dans la partie graphique, c'est plutôt Guillaume. Par contre, moi, je parlais du gameplay.
Ouais, vas-y, j'en prie. On va en parler, donc parle-en.
Justement, du gameplay, c'est assez original, en fait, de proposer deux niveaux de vitesse pour le joueur, généralement, en jeu de plateforme classique. Se joue avec une seule vitesse, c'est-à-dire que le personnage...
Il marche, plus, ouais.
Là, il marche, puis après il court.
Tout à fait.
Là, Rayman, en fait, marche, et c'est au joueur de le parcourir. Et donc après,
exactement, il faut appuyer sur une touche si on veut qu'il court, sinon il ne courra pas.
Voilà, et en fait, le VLZ est pensé en fonction avec une vitesse de défilement de scrolling de l'image qui est assez rapide et une fluidité qui permet donc de faire de grands sauts, d'avoir une action assez large et donc une vitesse de jeu assez bonne.
Ouais, et ce qui est aussi très fort sur Rayman Origins, c'est que si on appuie fort ou pas sur la touche de saut, le personnage lui sautera plus loin ou plus haut selon la force d'intensité de.
Ouais, ça oui, c'est.
Mais c'est vachement important parce que dans les phases de course ou de course contre un coffre à pattes, si on dose pas son saut, on tombe dans un trou et c'est terminé. Le scrolling continue à avancer et c'est mort.
C'est clair que ouais, ce que tu dis, les scènes où on doit courser un coffre là sur des maps où c'est super rapide et ça se joue au centième de millimètre.
Si tu n'appuies pas.
Exactement,
comme il faut, ouais. Sur ta touche saut,
tu tombes et tu recommences
à zéro. C'est aussi simple que ça. Hein.
Alors ça, puis avec la musique qui est super présente en plus de ces phases-là, c'est juste une horreur. Quoi. À chaque fois, je me fais avoir comme ça. Quoi.
Tout à fait.
J'ai pas compris le nombre de phases de saut qu'il peut y avoir. En fait, généralement, quand le challenge est monté sur la plateforme, on a plusieurs hauteurs de saut qui sont entre 3 et 5 pour un jeu sur la plateforme.
Ouais.
Je n'ai pas compris le nombre de phases.
Oh, il y en a beaucoup, mais les niveaux coffre à pattes sont des niveaux, si on veut les réussir, il faut s'y mettre, et c'est clairement de la plateforme pure et dure, et là, si tu lâches ta touche d'accélération, bah, tu tombes dans un trou, c'est à jouer vraiment en accélération constante, sinon on le passe pas. Mais c'est vraiment prenant. Moi, je sais que c'est un des rares jeux que j'ai eu envie de finir à 100%. Je l'ai pas encore terminé à 100%. Il manque quelques trophées de course, justement. Mais ça donne vraiment envie de se prendre la tête à se dire, quand je l'aurai fini à 100%, il y a vraiment eu du challenge. Donc, croyez pas que c'est parce que c'est un jeu Rayman et que c'est parce que c'est un jeu de plateforme, dessin animé un peu, qu'il n'y aura pas de challenge. Le challenge est là et vraiment.
Le challenge est assez officif et puis il y a une rejouabilité derrière qui se fait qui est incroyable, que ce soit en solo ou à plusieurs. Moi je sais que j'ai joué à 4 avec des potes et c'était juste.
Alors plusieurs seulement sur console HD parce que la PS Vita, la 3DS ne bénéficient pas malheureusement d'un multijoueur.
Même en Wi-Fi on peut pas ?
Non, même en Wi-Fi parce que. À ce qu'ils ont dit, ça a été trop difficile à implanter. Alors moi, je veux bien. Après, je pense qu'en Wi-Fi, ça devait pas être si compliqué, mais rien qu'en Wi-Fi local, quoi. Non, là, on peut juste transférer des fantômes.
Un peu à la Mario Kart sur 3DS, quoi.
Et il fonctionne en online, hein, Mario Kart 3DS.
Oui, en plus. Ouais.
Hein. Donc, ça aurait été complètement possible. Enfin, j'imagine que le problème de Rayman, c'est il y a réellement des phases où si quelqu'un n'avance pas, bah, il disparaît, quoi. Donc, je pense que ça aurait peut-être pu bloquer selon les connexions internet de certains.
Ouais. Après, faut voir par rapport à ça, c'est que quand en multi, qu'il y en a un qui avance pas et que l'autre avance, le problème
oui,
c'est que l'écran, ouais, non seulement ça, mais aussi ta zone de jeu, tu veux, à l'écran, elle s'agrandit. Ouais,
d'accord, maintenant, imagine ça sur PS Vita.
Ouais, la PS Vita avec l'écran, bon d'accord, c'est pas du.
Même s'il est beau et assez grand.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même
légèrement. Si tu rétrécis l'image, c'est pas possible.
Après, je reviens sur la partie graphique de Rayman, parce que c'est vrai que, autre que le fait qu'il soit quand même magnifique, qu'il soit fait à la main, qu'il se soit fluide à en chialer, c'est juste impressionnant. Il faut savoir que Ubisoft a sorti pour ce jeu son propre moteur de jeu, Ubi Frameart ou un truc comme ça.
Ubi Art. Non, Ubi Art. Ah,
Bon, en tout cas, à vérifier, mais voilà, un Nubi blablabla machin, et qui est assez impressionnant, et on espère de voir comment les éditeurs qui vont après bosser avec ça pourront faire des choses.
Ils ont clairement dit que il était ouvert.
Voilà, que c'était ouvert. Donc pour les indépendants ou pour des grosses boîtes, j'ai hâte de voir ce que ce moteur va donner entre les mains d'autres personnes que.
D'ailleurs, toi, tu bosses dans le design
dans
du jeu
graphisme,
vidéo,
ouais.
Dans le graphisme, oui, pardon.
Et c'est vrai que je pense que ce sera un kiff d'essayer un moteur de jeu comme ça, voir les possibilités qu'il y a. D'apporter directement ses dessins, de les animer et de faire des choses officielles, quoi.
Non, on va parler aussi de la bande son. C'est particulier, comme on dit, mais ouais. Ça fonctionne. C'est typiquement Rayman.
Ah, la bande son est juste géniale, je crois.
Ouais.
Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la personne qui s'était occupée de la bande son du premier Rayman qui est revenue avec Michel Ancel pour s'occuper de la bande son d'Origin.
Il s'est occupé de plein de bandes son,
ouais,
et entre autres celle-ci, et effectivement elle est revenue ses premiers amours entre guillemets chez Ubisoft,
voilà, ouais.
pour continuer son travail, parce que Rayman c'est quand même une des sagas les plus importantes de chez lui,
malgré ce petit dérapage lapin crétin qu'on peut
non je pense qu'on peut l'oublier celui-ci sincèrement, ouais, voilà. je pense que c'est une des plus graves erreurs qu'ils aient faites. Après
ça marche,
ça a vendu, hein, ça a vendu
voilà,
beaucoup.
Mais gros
mais
merdo,
que
ça
c'est dommage,
a du Rayman du
Bah c'est pas du Rayman. Alors au départ ils ont essayé de nous le vendre avec du Rayman, le lapin crétin, mais bon c'est un autre sujet.
Bah en fait non, si ça s'était vendu avec du Rayman, c'est le truc, c'est que c'est un personnage qui a pris vachement d'importance et qui finalement s'est détaché de la licence Rayman et qui est devenu une licence à part. Alors après on aime ou on n'aime pas, enfin moi je trouve ça vachement fandard, mais j'irai pas acheter le dernier Rayman sur Wii. Le dernier lapin crétin, pardon, sur Wii, mais c'est vachement fandard, c'est grand public, c'est pour les enfants, et voilà, ça reste très accessible, c'est une nouvelle licence qui s'est formée malgré elle, quoi.
Ouais, et niveau durée de vie, donc, maintenant,
mais pardon,
ce Rayman est complètement énorme au niveau de la durée de vie, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la rejouabilité est folle, si tu veux vraiment réussir à faire tout à 100%, t'en as pour des heures de jeu, je pense que je dois être à, sincèrement, 25 heures. Peut-être que je joue mal hein, après, mais
non parce que même
si
moi qui l'ai pas fini,
à 100%.
Mais moi qui suis loin de l'avoir fini, j'en suis à plus de 20 heures, mais c'est parce
ça,
que moi
fait,
j'essaie de chercher toutes les petites pièces.
Oui,
mais
c'est ça. Je te parlais bien de ça. Bah il faut 3. En fait, pour faire simple, pour finir un niveau à 100%, il faut 350 looms, c'est des petites bestioles vertes à récupérer.
Entre 300 et 350, ça dépend des niveaux.
Non, pour la finir à 100%, je parle.
Pour
donc pour la médaille d'or, c'est 350.
D'accord, ok.
Oui, c'est vrai qu'il y a les niveaux de boss qui sont à 150.
Ouais, voilà.
C'est vrai, pardon. Autant pour moi. Mais sinon, c'est 350 dans le plus grand ensemble. Ensuite, il faut récupérer tous les Electoons. Il y en a deux cases cachées, et il y a la dernière cache que l'on vous donne obligatoirement, donc il y a deux cases cachées. S'ajoute à ça un mode marathon, donc il faut réussir à faire le niveau, donc pas spécialement entièrement, parce qu'on va pas jusqu'au bout, on nous arrête avant avec un drapeau, mais il faut réussir à le faire en attente donnée, et donc il faut courir, et réussir ses sauts comme il faut. Et ajoutons à ça les coffres à pattes et dents de la mort, qui... En ayant les 10 dans la mort, débloque le niveau de fin.
Ah ouais, d'accord,
je ne parlerai pas du niveau de fin, mais
le pas parce que j'ai encore du mal à les avoir. Donc
Non, j'en parlerai pas.
Très bien.
Mais je dis juste que il faut faire ces dents de la mort si on veut réellement terminer le jeu. Ça donne le niveau de fin, voilà, tout simplement. Donc il y a réellement du challenge, il y a réellement du temps de jeu, et pour avoir réellement le jeu à 100% terminé, le trophée platine sur PS3, PS Vita ou les succès à 1000G sur 360. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, conclusion sur ce Rayman, on peut que vous conseiller d'y aller.
Là, clairement.
Ouais. Quelle que soit la console, il va sortir sur tous les supports.
Si tu devais lui donner une note sur 10.
Ah non, je donne jamais de note, je peux pas noter les jeux. C'est un truc que j'ai du mal à accepter comme concept de voir noter un jeu. Quand je ne sais pas moi-même faire de jeu, je veux pas noter, je veux bien donner mon avis, mais je veux pas le noter.
Très bien.
Mais je peux que vous conseiller d'y courir, surtout qu'il a baissé sur console PS3 et Xbox 360.
Sur PC maintenant il a
30
euros, donc c'est quasiment gagné.
PS Vita,
donné,
bon, il est en dématérialisé, il est à 30-35 euros aussi. Donc franchement foncez, achetez-le.
Donc voilà, merci Anthony pour ce test de Rayman Origin. On va maintenant passer à la partie débat. Donc le débat de la semaine, ce sera la question suivante. Donc il y a de plus en plus de jeux actuellement qui incorporent des choix dans le gameplay avec plus ou moins d'incidence sur le scénario et sur le gameplay. Donc voilà, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est êtes-vous pour ou contre les jeux qui proposent ces choix-là? Et dans ces cas-là, est-ce que vous orientez plus vers le mal ou le bien? Par exemple, si je prends Infamous, si je prends Red Dead, est-ce que vous préférez être un hors-la-loi ou un mec, un gros vilain, ou plutôt le cow-boy super sympa du coin ou le super-héros du truc? Donc voilà, donc on va commencer là-dessus. Donc Simon, je te pose la question.
Alors, est-ce que je suis pour ou contre
les choix dans le jeu.
Les choix dans le jeu, déjà, on va partir là-dessus.
Je suis pour ou contre les choix dans le jeu. En fait, fait, ça dépend. Ça va dépendre du jeu. Mais surtout, ça va dépendre de ce que j'ai envie de jouer en ce moment.
Ouais. Par exemple, quel genre de jeu tu es pour, par exemple?
Je suis pour les jeux du style Deus Ex, style...
Donc dans le sens où ça a une incidence sur le gameplay?
Oui, en fait, pas forcément, parce que il y a des jeux où il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir des choix. Je reprends un exemple cité dans ce podcast, Rayman Origins. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des choix dans Rayman Origins?
Oui, je suis d'accord, il y a aussi des... Oui, bien sûr. Ah ben non.
Donc, ça va dépendre en fait aussi de la structure de jeu, est-ce que ça va être un monde ouvert, est-ce que ça va être un monde linéaire. Et ça va dépendre aussi de l'intention des développeurs, est-ce qu'ils veulent mettre des choix pour ça, afin que le gameplay ou est-ce que ça ne fait pas assez beau.
Tout à fait. Ça c'est important de le dire parce que par exemple, on prend le cas par exemple d'Heavy Rain, personnellement, que j'ai beaucoup joué, avec des fins différentes à la fin selon les choix, selon si un personnage restera ou pas dans l'histoire. Personnellement, je trouve que là c'est important pour le gameplay.
Voilà, parce qu'il a tout misé là-dessus.
Clairement.
Et à partir du moment où c'est bien fait, où on mise là-dessus, oui, moi je suis pour. Après, voilà, jouer qu'à ça, je pourrais pas. Je pourrais pas tout simplement parce que, alors déjà, ça va dépendre aussi de comment c'est mis en scène. Exemple, Kingdom Hearts. Hein.
Oui.
C'est un jeu où il n'y a pas forcément des choix, sauf tout au début du jeu, on vous propose est-ce que vous voulez être magicien, est-ce que vous voulez augmenter votre force d'attaque, est-ce que vous êtes plus pour la défense. Et tant qu'on n'a pas testé ça, on ne peut pas forcément faire un choix là-dessus.
C'est vrai.
Donc, oui, je suis pour les jeux avec des choix, mais pas tout le temps.
Donc, par exemple, pour Kingdom Hearts, tu es complètement contre alors. Parce que tu sais pas ce que ça va avoir comme incidence.
Kingdom Hearts, je serais pour avoir ce choix-là à partir du moment où j'ai testé
les classes.
Les classes.
D'accord.
Ouais, c'est ça. Après, faire un choix tout au début du jeu, parfois, ça me semble déplacé.
Mm-hmm.
Parce que même en décrivant qu'est-ce que ça fait, quel est l'effet recherché, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas dire quel est le plus fun.
Donc, t'aimes pas, par exemple, pour un choix de classe, donc puisqu'on est dans le choix de classe, dans les MMO par exemple, quand on te demande de choisir
si
un guerrier...
MMO, j'ai beaucoup de mal. Je préférerais des MMO où on commence neutre, et mm-hmm. On crée sa personnalité via des choix à l'intérieur.
Bah justement, c'est bien que tu en parles, parce que World of Warcraft, dans la prochaine extension, va permettre, entre guillemets, le fait de choisir le bien ou le mal, parce que on créera un personnage neutre, et selon les choix qu'on décidera... à la fin, on pourra partir vers la Horde, donc les méchants, ou vers l'Alliance, les gentils, entre guillemets. Hein, donc là, par contre, ça t'intéresse, par exemple, ce genre de choix.
Ça m'intéresse plus, oui. Ça m'intéresse plus. Maintenant, je suis pas forcément pour toujours le bien ou le mal différencié.
Tu voudrais rester neutre, par exemple?
Pas forcément rester neutre, mais avoir plusieurs nuances à l'intérieur. Pas dire, par exemple, une Vénus, avoir des éclairs bleus, je suis gentil, avoir des éclairs bleus, je suis méchant.
Ah non, mais là, clairement, ça sert à rien.
C'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est assez manichéen et que je commence à connaître. Donc,
oui.
Étant à la recherche, chaque fois, d'expériences un peu différentes. J'ai, par exemple, assez apprécié Mass Effect 1. Deus Ex, précisément, parce qu'il nous demande de faire des choix et qu'on sait pas forcément qu'est-ce qui va se passer après.
C'est-à-dire, parle, peut-être que tout le monde n'a pas joué à Deus Ex.
Une séquence. Dans la première mission où on a des otages, on nous dit pour commencer la mission de nous dépêcher. En fait, on est lâché dans un QG. Et en fait, sans le savoir, on a 15 minutes pour démarrer la mission si les otages meurent. Donc, toute la mission en ayant les otages qui sont morts. Donc, c'est pas la même approche si on avait s'était dépêché et qu'on avait opté pour l'approche furtive.
Voilà. Tu veux pas réagir, Guillaume?
Non, mais non, parce que Deus Ex, j'ai pas eu le temps d'y jouer.
Mais là, t'avais l'air de rire pendant que...
Non, mais bah, je trouve ça fou comme...
Bah, c'est assez pareil comme concept, ouais, le truc de se dire, t'es pas au courant et si tu te dépêches...
On te dit quand même de te dépêcher, voilà, on te dit de te dépêcher.
Voilà, c'est assez
le jeu te donne l'ordre,
c'est logique, d'accord, mais on dit de te dépêcher, mais on ne dit pas pourquoi, quoi.
Ah si,
on te dit, on te dit dès le départ, il y a des otages.
Il y a des otages, il faut absolument commencer la mission, qu'est-ce que tu fais, on te rappelle plusieurs fois. Mais,
ah bah voilà.
Si tu attends trop longtemps.
Ouais.
T'appelles les teams et putain, les otages sont morts. Ah bah.
C'est fou, ça quand même, parce que je sais pas, c'est peut-être le premier jeu.
Après, là où c'est peut-être mal fait, c'est effectivement que c'est la première mission.
D'accord, ouais.
Et donc,
Guillaume.
Bah après, est-ce que ça a vraiment une incidence sur la suite du jeu?
Si on a gardé ces otages ou pas, c'est ça?
S'ils sont morts ou pas? Est-ce que ça va vraiment influer sur la suite?
Alors, je sais pas si ça a influé à long terme, parce que je te vois, je suis pas le terme. Maintenant, c'est une incidence sur la mission, sur la fin de la mission, par exemple. Si les otages meurent, la femme qu'on va sauver à la fin de la mission pleurera parce que son mari est mort, et donc en fait, il va y avoir. Sur l'histoire globale, par contre,
Et ensuite, donc, on en vient à la suite de la question. Toi, quand tu as le choix, tu es plutôt pour les gentils ou pour les méchants?
Alors moi, j'aime bien être gentil. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de personnalité méchante, tout simplement.
Mais même dans un jeu où, par exemple, Star Wars, tu choisirais pas Sith.
Alors voilà, justement, Star Wars, c'est un MMO un peu l'exception du monde.
The Old Republic, hein, pour
oui, The Old Republic, le MMO.
De
BioWare.
En fait, déjà, j'aimerais bien jouer les deux. Je sais que dans un jeu où j'ai le choix, justement, je pense que je préfère être le gentil, mais j'ai toujours le choix que le méchant pour voir ce qui se passe.
Surtout que, par exemple, dans The Old Republic, là, il y a carrément une grosse incidence sur les choix. Selon ce que tu vas faire, il va y avoir pareil des personnages qui vont rester ou qui ne vont pas rester. Et selon que tu sois gentil, enfin Jedi ou Jedi et Sith, il y a aussi d'autres classes, mais il y aura aussi une incidence sur le gameplay, sur tout ce qui va se passer.
Dans ce cas-là, oui, j'aime bien jouer les deux. Mais là, pour l'exemple de Star, je commençais par le Sith.
Quand même, par le Sith.
Une gestion de classe.
Ouais, attends, faut rappeler qu'il y a quand même les Sith dans Star Wars, ils ont quand même une classe suprême.
Je te confirme. C'est vrai que je joue par exemple sur The Old Republic et ouais.
Et donc t'as décidé de faire le mal.
Ah, j'ai décidé de devenir
de tuer des gens et de tuer des bébés, des chèvres et tout ça.
On verra à mon avis après.
Après voilà, dans l'exemple Star Wars, même en choisissant le site, je ne fais pas toujours le mal. C'est pas parce que je suis site que je tue.
Alors quel intérêt de choisir le site, sincèrement, selon moi. Juste le design du perso.
Le design du personnage, les attaques aussi. Question de rage ou de force, peut-être un ressenti en mettant ce genre de personnage, mais ça ne veut pas dire que c'est du monde pour faire le mal.
D'accord, ok.
Moi, par rapport à cette question, justement, c'est un truc que je me suis rendu compte de ça récemment, c'est qu'à chaque fois qu'on laissait le choix en fait de faire le bien ou le mal, c'est-à-dire que récemment j'ai joué à Infamous et à Red Dead Redemption, et en fait à chaque fois je me suis rendu compte qu'inconsciemment je devenais gentil. Donc même si je voulais commencer à buter des gens, j'y arrivais pas parce que je me dis ouais, peut-être que si je laisse en vie plus tard débloquerai une mission ou un item, en tout cas la con je pourrais débloquer. Infamous pareil, je me dis je vais être méchant, je vais devenir tout rouge et tout, et au final je me suis retrouvé tout bleu comme un con, comme un schtroumpf en fait, à faire le bien et des missions un peu teubées. Donc j'étais un peu déçu, mais d'un côté voilà, c'est des choix inconscients que je fais.
Pareil,
ouais, c'est vraiment, c'est-à-dire que même on me propose le bien ou le mal, inconsciemment,
tu réfléchis quand même.
Bah ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire que moi, je pense, en fait, à la suite, je me dis que si je tue cette personne, je vais perdre un truc, si je tue autre chose, je vais perdre un truc. Récemment, je suis en train de rejouer à Red Dead Redemption Undead Nightmare, donc l'extension avec les zombies, et en fait, en début de jeu, bon, je spoile pas trop parce que c'est vraiment tout début, on doit chasser des Bigfoot dans la forêt, et à un moment, on tombe sur le dernier Bigfoot à tuer, et là, on choisit de le tuer ou pas. Moi, j'étais là, je fais bon, est-ce que je le tue ou pas, j'en ai déjà tué plein, donc je m'en fous en plus, finalement, ça va pas être grave. Je m'apprête à le tuer, il y a ma copine qui est à côté de moi qui me dit non, on le tue pas et tout, il est super mignon. Et moi je me suis dit ouais, ok, mais si je le tue, peut-être que je vais gagner genre de la peau de bête que je pourrais revendre avec 4 000 $ ou je sais pas. Et voilà, et inconsciemment, bah, finalement je l'ai pas tué et finalement je me rends compte que j'ai rien gagné en plus.
T'aurais voulu le tuer finalement.
Donc finalement je l'ai tué et donc je l'ai réessayé, je l'ai tué et finalement je me suis dit en fait il y avait rien à gagner.
Et ça n'importe rien.
Dégoûté.
Donc là c'est vraiment du choix inutile, sincèrement.
Là pour le coup, si le choix tu le tues ou tu le laisses en vie, c'est exactement la même chose.
Ouais, alors,
c'est un peu dommage quoi.
Sincèrement, les jeux qui t'offrent un choix qui n'ont pas d'incidence sur le gameplay, ça a vraiment aucun intérêt, hein, clairement.
Ben voilà, ouais.
Moi là, si j'ai envie de rebondir sur les choix, c'est le fait que quand tu fais des choix dans un jeu vidéo, il faut toujours partir du principe que ce sera jamais comme dans la vraie vie de toute manière. Ça a toujours été pensé par des développeurs, des scénaristes, et que de toute façon, que tu fasses ce choix-là ou un autre choix, sauf peut-être dans Heavy Rain,
oui, par exemple, mais ça a été pensé pour ça.
Ça a été pensé pour ça, c'est-à-dire que c'est quand même assez binaire. C'est soit ça va tuer quelqu'un, ça va faire un enchaînement de.
Oui.
Un enchaînement de. Ou alors ça va finir de toute manière, le jeu finira la plupart du temps de la même manière. Et exactement, enfin d'ailleurs il y a eu une polémique là récemment, c'est l'actualité, sur Mass Effect 3,
oui.
Où la fin
on va pas la spoiler.
Non, je dis rien, moi, mais voilà.
Non, mais là, tu veux dire que quel que soit le choix qu'on va faire, on aura la même fin sur Mass Effect sans spoiler.
Ouais, t'auras la même fin.
Donc là, oui, c'est vraiment décevant, surtout sur un Mass Effect où ils nous ont quand même, pendant 3 jeux, habitués à avoir une incidence sur nos choix.
En fait, t'as des incidences tout au long du jeu.
Mais pas la fin.
Mais pas la fin.
Ouais, c'est dommage. On va revenir rapidement sur Heavy Rain, puisque t'en parlais, je vais essayer de spoiler le moins possible pour expliquer les choix dans Heavy Rain, justement, l'incidence que ça peut avoir. Par exemple, notre héros, enfin un de nos héros, puisque on dirige 4 personnes en fait, Ethan Mars, a des choix à faire dans le jeu, soit exécuter une mission qu'on lui donne, soit ne pas la faire. S'il fait cette mission, il aura une partie d'une adresse. S'il ne la fait pas, il n'aura pas la partie de cette adresse et il ne pourra pas sauver la personne. S'il ne peut pas sauver la personne, là ça a une incidence directe sur le gameplay. Puisque tu n'as pas l'adresse, tu ne peux pas aller à l'adresse, donc tu ne peux pas aller sauver la personne. Sauf si tu as fait des missions, et si tu en fais la moitié, tu auras une partie de l'adresse. Et donc après tu peux essayer, au feeling on va dire, de trouver la bonne adresse. Moi je pense que ça apporte quelque chose, même s'il y a eu beaucoup de controverses sur Heavy Rain, hein. Là on parle pas vraiment du gameplay, on parle vraiment des choix. Je trouve que c'est un jeu très fort quand on te propose de faire un choix et que ça a une réelle incidence dans le jeu. Quand tu as l'impression que ton acte va vraiment impacter le jeu.
Bah tu sais quoi, que selon les choix que tu fais, la fin du jeu sera pas pareille.
Oui.
Ce serait bien qu'à un moment ou l'autre tu perds un personnage.
Sans me tromper, il y a au moins
une dizaine de fins possibles, ouais, donc.
Je crois qu'il a raison. 21 fins. Alors après,
c'est quand même incroyable.
Fait, les fins, il y a des parties qui seront les mêmes, mais il y a 21 cinématiques de fins différentes. Puisqu'il y a un trophée qui, effectivement, se débloque quand on a les 21 fins. Donc il y a 21 petites cinématiques de fins différentes selon les choix qu'on a fait sur nos personnages ou pas.
Voilà, maintenant, si on me pose la question, est-ce que je préfère un jeu linéaire pour avoir des choix, moi je suis plus orienté sur le joueur qui préfère ne pas avoir de choix.
Pourquoi ?
Voilà, le jeu linéaire c'est mieux.
Parce que j'aime bien quand on me propose une expérience novatrice et que j'ai pas en fait avant ce travail de je vais me faire moi-même. Je suis en fait plus un joueur achiever qui aime bien tout débloquer dans le jeu.
D'accord.
Et qu'on me propose une suite logique d'événements plutôt que me construire mon histoire, quitte à faire parfois des bourdes qui me gâchent un peu l'expérience du jeu.
Genre,
ça fait partie de cette expérience.
Du genre Skyrim, tu pourrais.
Genre, tu es un personnage en même temps.
Moi, je pense pas que ça pourrisse l'expérience de jeu, sincèrement. Si tu fais un choix que tu trouves qu'il y a une incidence qu'il ne fallait pas, tu remontes ta sauvegarde.
Voilà, je suis un peu flemmard, j'aime pas forcément monter une sauvegarde.
Bah oui, mais ça apporte de la rejouabilité.
Ah oui, en fait, c'est pas partie du sauvegarde.
Non, tu préfères vraiment un jeu qui serait linéaire.
Linéaire, après.
Oui, non, mais voilà, mais pas dans un monde ouvert, enfin, au monde ouvert ou pas. Il y a des mondes ouverts qui sont linéaires, entre guillemets. Hein.
Par exemple, l'exemple assez frappant, c'est le dernier film.
Le 13-2 ou le 13-2
D'accord.
Le
13-2.
Qui a une histoire linéaire.
D'accord.
Donc il y a quand même de fortes différences, mais le cheminement est assez linéaire. Mais pourtant, on a la possibilité de voyager, de faire évoluer son monde en fonction du choix des gameplays qu'on va faire.
Guillaume, on ne t'a pas posé la question. Toi, quand tu as le choix, bon ou mauvais?
Par dépit, je dirais mauvais. Mais en fait, je rejoins pas mal Ludo sur le fait que quand on me propose des choix à faire dans un jeu, je suis assez frileux en me disant « Ah, mais qu'est-ce que ça va faire ?»
Ouais, c'est ça, t'as trop peur qu'il y ait une influence sur le truc pour...
C'est le but, justement.
C'est bien et c'est super frustrant en même temps parce que je sais que moi, personnellement, j'ai pas le temps de refaire un jeu 15 fois.
Ah oui, voilà, alors il y a aussi le problème de temps, oui.
Pour avoir toutes les possibilités, enfin voilà. Ça me rappelle un peu d'ailleurs les livres que je lisais quand j'étais petit, genre le livre.
Et donc vous êtes le héros.
C'est énorme.
C'est génial.
On a tous lu ça quand on était gamin.
Je lisais qu'une fois.
D'ailleurs, c'est ça, voilà. C'est sûrement ce qui a été les prémices de aujourd'hui ce qu'on a dans les jeux vidéo.
On peut aussi
vous conseiller si vous aimez les choix ce genre de livre. Hein. Mais il faut vraiment aimer lire, hein, parce qu'il n'y a pas d'image, rien. C'est vraiment un monde imaginaire.
Et puis oui, il y a vraiment des fins différentes. Après, ça dépend quel livre.
On peut, c'est simple. On peut décider de tourner à droite, tomber dans un ravin et le livre s'arrête là.
Le livre est fini.
En 5 minutes, tu peux avoir terminé ton livre.
Oui, voilà, c'est ça, c'est assez énorme.
Le jour où il prend ça dans le jeu vidéo, ce sera un peu triste quand même. Genre, tu joues 5 minutes, tu tombes dans un ravin, t'es mort, tu recommences la fin du jeu, tu fais putain merde.
T'as joué que 5 minutes, t'as pas joué une heure et demie.
Ouais, mais bon,
en tant que développeur, c'est vrai que dans le jour, ça te contraint d'une progression claire et nette avec challenge, difficulté qui augmente au fur et à mesure. Pas forcément que ce joueur avec le challenge.
Ouais.
Bon, moi, je vais parler un peu aussi.
Vas-y, bah oui.
Au niveau du choix, donc moi, je suis complètement pour ce genre de jeu, même si c'est vrai que j'aime bien jouer à des jeux linéaires. J'aime bien aussi le fait d'avoir des choix dans les jeux, le fait de pouvoir choisir ce que mon personnage va devenir vraiment. Et même si je fais des mauvais choix, ça arrive par moments. Alors, soit je me dis, c'est pas grave, je continue, soit je me dis, mince, j'aurais bien voulu quand même que ce personnage-là continue à suivre l'aventure avec moi, et je remonte. Si j'ai pensé à faire une sauvegarde différée.
Après, il y a des jeux comme ça aussi, même si tu fais les mauvais choix, tu peux toujours revenir sur ce que tu veux faire. Tu prends Fallout 3, tu prends Skyrim, concrètement, tu fais une bourde, tu peux la rattraper deux secondes après. Même au début, quand tu fais ton personnage.
Je parlais plus Heavy Rain, par exemple.
Ouais, d'accord.
Heavy Rain, quand j'ai commencé à jouer la première fois, j'ai perdu un personnage. Et ben, il a été clair que j'ai remonté ma sauvegarde parce que j'avais pas envie de perdre ce personnage et j'avais envie de voir où est-ce que ça pouvait aller après.
Moi, je suis assez fier, j'ai perdu aucun personnage sur Ivory.
Félicitations. Mais il faut les perdre aussi pour voir les autres fins après.
Ouais, mais voilà, moi je l'ai fait qu'une fois. J'aimerais bien le refaire, mais je l'ai fait qu'une fois pour l'instant.
Moi, je peux que te le conseiller, il y a des fins vraiment très sympathiques avec. Mais, et après, bon ou mauvais, ben moi je vais être mauvais dans les choix. J'ai choisi toujours, alors je sais pas pourquoi, de faire le mal.
Parce que t'es trop gentil dans la vraie vie et tu te défoules dans le jeu.
C'est-à-dire que vous êtes méchant, c'est quelque chose que j'ai bon, c'est ça?
Peut-être.
Non, en fait, non, c'est dire.
Non, mais c'est clairement un exutoire. C'est très probable que ce soit ça, effectivement.
Ça me paraît logique.
Et donc, j'ai commencé un site sur The Old Republic et sincèrement, je choisis toujours des choix mauvais. Mais consciemment, par contre, contrairement à toi qui, sur certains jeux, choisirais inconsciemment les bons choix. Là, sur The Old Republic, il y a certains endroits où, quand on fait un choix, il y a une petite icône bleue ou une petite icône rouge qui te dira si c'est un bon choix, soit un choix gentil ou un choix méchant. Et ben moi, je clique.
Ouais, mais tu vois, tu restes encore guidé dans les choix que tu fais, quoi. Faudrait pas qu'il y ait une indication comme ça, quoi.
Est-ce que tu te dis pas, justement, c'est quand même l'univers Star Wars et tu sais que plus tu es gentil, un peu derrière comme dans Fable, et plus tu es gentil, plus tu vas être fort dans la gentillesse, enfin, plutôt dans le
ah mais si c'est clairement
plus
ça.
Plus tu vas être méchant, tes sites de toute façon. Plus tu vas devenir le master.
Exactement.
Libre,
et c'est clairement ça aussi. C'est pour dans l'ambition.
Ce jeu-là est fait pour ça, en fait. Je pense.
Ouais. Mais j'ai joué avec des joueurs qui choisissaient pour un site, comme tu le disais tout à l'heure, les bons choix. Mais comme je te le disais tout à l'heure, je peux pas concevoir de faire un site pour faire un bon. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est dans le background aussi du personnage.
Attends, il y a aussi un site qui est gentil, quoi.
C'est pour ça, pour moi, c'est pas possible.
Ouais, c'est vrai, après, c'est pas jouable. Le chara-design des sites est quand même.
Il te donne envie de flinguer tout le monde.
Parce que les faux design en collant blanc avec leur style.
Non, mais
ça, c'est clair.
C'est vrai, le style est déjà différent. Mais de dire que tu vas pouvoir. Enfin, que t'es maître, entre guillemets, de la vie et de la mort de la personne, et que le gars va venir te supplier, et que toi tu vas dire, bah non, mec, je suis site, et schlack, et voilà. Et de le fait de pouvoir, en fait, vraiment tout détruire, aussi. Parce que, quand t'as des choix sur une famille, tu peux décider de détruire toute la famille, mais une par une. C'est-à-dire en commençant par les parents, pour essayer d'atteindre l'enfant, etc. Il y a ce genre de choix dans The Old Republic, où tu peux choisir de ne pas le faire directement. Moi, je pense que, bon, après, voilà, quand on est site, on doit choisir le côté obscur, puisqu'on a choisi de partir le côté obscur, même si c'est une question de skin, je suis d'accord. Et c'est aussi sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pu mettre la balance pour les sites, parce qu'ils se sont dit, comme pour toi, il y en a qui vont préférer le skin, mais qui vont pas spécialement vouloir faire le mal, ils vont pas vouloir détruire tous les personnages, hein, Simon.
Oui, en fait, généralement, quand on est dans le site, quand je prends le site, c'est pas forcément que je fais bien.
C'est inconsciemment.
Il m'arrive de tuer, mais quelque part, je finis toujours par remonter dans la balance du bien. Ça, c'est, je pense que c'est un choix.
Mais quand tu joues, parce que Star Wars The Republic, c'est quand même un monde ouvert. Est-ce que les gens que vous voyez autour de vous, ils sont plus, c'est plus des Jedi ou des Sith justement?
Eh ben, sincèrement, la balance est assez. En fait, au début du jeu, on est chacun dans nos zones. Hein. C'est qu'après qu'on finit par un peu se rencontrer dans le monde des jeux un peu JCJ et puis ça dépend ce que tu joues. Mais la balance est assez, elle est assez égale justement. Il y a vraiment
parce
des
que
gens.
Je pense que justement ce jeu-là, comme ça monde ouvert et qu'on peut voir tous les autres joueurs, je pense que ce sera un bon,
point
pour voir, justement le choix des gens. Voilà.
Dans WoW, la balance est clairement côté Horde, par contre.
Ouais. Je sais pas, je joue à WoW donc.
Je pense que
Je sais pas, moi non plus, tout. J'ai une vie sociale, j'ai envie de la garder, je vais pas me foutre sur le jeu là, je pense.
Mais il y a besoin de pas avoir de vie sociale, tu peux jouer le soir tranquillement, une ou deux heures, et...
Ouais, mais du taf le soir, voilà.
C'est vrai que vous bossez sur des jeux vidéo, excusez-moi.
Bah ouais, bah ouais.
C'est le
point,
mais...
Puis ça donne peut-être pas aussi envie de jouer à des jeux vidéo le soir, une quarantaine.
C'est ah non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a pas le temps.
Je suis plutôt un joueur achiever qui a...
Donc toi, t'es plutôt
PS3
ou Xbox 360
Moi, c'est
une
PS3, je peux une PS3.
Donc Trophy War, vraiment ou pas?
Pas forcément les trophées. Alors l'achievement, c'est l'achievement ça. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à avoir dans tous les jeux. Est-ce qu'on veut voir?
D'accord, je sais pas.
Non, ça m'a jamais intéressé. Par contre, le sentiment du travail en fait sur un jeu.
Ouais.
Pas forcément de là à faire des
surtout quand on voit ce que coûtent les jeux maintenant, quoi.
Ouais.
Mais après, je te rejoins, Simon, moi, sur justement la question des choix dans les jeux vidéo. C'est que moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des choix dans les jeux. Quand je fais un jeu, j'aime bien me dire, tiens, si je fais ça, peut-être que ça m'a fait le truc. Mais ça commence, moi, ça me saoule un peu. J'aime bien avoir un jeu voilà, où je suis un peu guidé quand même, où j'ai une histoire.
En Call of, hein.
Vraiment. Non, mais Call of.
Ça va être une fanilaire, pas le droit de bouger. Hein.
Call of, j'ai pas envie de claquer 80 E pour jouer 5 heures, quoi. Faut arrêter.
Moi, c'est surtout pour me dire, qu'est-ce que j'ai à faire. Par exemple, je prends l'exemple. Sorti, là, quand j'étais sorti des débuts, je ne savais plus où aller. En fait, j'ai du mal à me fixer comme objectif dans un monde ouvert. Et bien ouvert.
Oui, tu veux dire sans marqueur?
Pas forcément sans marqueur, par exemple, GTA, c'est un monde ouvert, mais ça n'a pas de repéré.
Oui, parce qu'il y a le choix de choisir telle ou telle mission, tel ou tel personnage. Pour
oui,
avec.
Après, c'est aussi en termes d'expérience, j'aime bien me dire que je suis plus fort que le monde. Alors que c'est une qu'un homme. En fait.
Toi, tu préfères être sur. Tu veux surpasser le jeu.
J'aime bien être. Outrepasser un peu les règles du jeu.
Alors, pas un jeu linéaire dans ces cas-là. Tu peux pas. Si c'est linéaire, tu ne pourras pas surpasser ce qu'on te dira d'aller.
Non, on ne peut pas surpasser où tu vas aller. Par contre, tout ce que tu rencontres en chemin, tu vas le développer.
Ouais, tu regardes, tu prends God of War, tu prends Uncharted, il y a un personnage sur ton chemin, bah, nul, tu le fuis, quoi. Et tu restes guidé, t'as qu'un personnage
temps,
qui est baraque.
T'as pas vraiment de choix sur God of War, hein. Tu vas m'expliquer où est-ce que t'as le choix dans God of War de pas
les. Non, d'accord, mais là c'est sur la question de la linéarité dans les jeux, quoi. C'est au final, voilà, t'as un personnage qui est baraque, qui est beau gosse, voilà, tu dis pas, je suis pas un homme lambda, là, je sais que je serais bien que je suis au-dessus de la masse. Je serais bien que dans God of War, je vais tuer
tu
tout ce
qui. Tu prends l'exemple
bouge.
De Uncharted, c'est quand même le gars le plus lambda du monde, sauf qu'il fait des acrobaties de taré, mais.
Ouais,
sauf que
il tue tout le monde, quoi. Il laisse personne en vie quasiment sur.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Mais bien sûr que si.
Pas tout le monde.
Non mais d'accord, il va pas tuer les personnages principaux de
l'histoire. Est-ce que vous avez joué à Uncharted 3, juste comme ça?
Bah oui.
Bah non, il ne tue pas tout le monde.
Il tue pas tout le monde, d'accord, pas tout le monde dans le scénario, mais il va tuer tous les gardes qui va voir, donc au final, c'est quand même que t'es plus
mort. Moi je te parle de personnages. Alors que dans God of War, hein, sincèrement, boss, pas boss, il va flinguer tout le monde.
Lui, c'est un malade aussi Kratos, donc
Dieu,
à partir de là...
pas Dieu, il va finir par
tuer
tout le monde.
Il en
arrive
à foutre, le gars, c'est un tueur.
Donc sincèrement, moi je trouve que, bon, Uncharted, d'accord, mais pas. Tu vas pas dézinguer tout le monde,
ouais,
enfin, pas tous les personnages
du jeu. Je veux dire que c'est 13, par exemple, j'ai moins apprécié la linéarité parce que je m'attendais pas à ça pour ce genre de jeu-là.
Mais je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été déçus de Final
Fantasy. Après, moi, je ne mettrai pas en cause l'histoire, les personnages, ce soir, mais en fait, ce sentiment d'être enfermé alors que visuellement, ça paraît plus clair.
C'est ça, le fait d'avoir des couloirs, quoi, tout simplement.
Voilà, alors que pourtant, la structure de jeu dans Final Fantasy, même dans Final Fantasy 7, on n'avait pas le choix d'aller à la fin du jeu.
Oui, mais est-ce qu'on te faisait croire?
On nous faisait croire parce que sur la map, on pouvait serpenter,
d'accord.
Explorer peut-être dans le village alors que c'était pas prévu à ce moment-là, mais on ne pouvait pas se rendre à la
fin
pas
du jeu, voilà,
le début du jeu.
D'accord.
Alors que dans un Morrowind, par exemple, on pouvait voir le début du jeu.
Ça, je ne savais pas. Et je crois que toi, Guillaume, tu voulais revenir sur les choix un peu.
Oui, si on regarde bien la plupart des jeux, là je prends l'exemple de Red Dead. Oui, j'ai adoré ce jeu d'ailleurs. Mais
il est excellent.
Oui, ça dépend pour qui. C'est pas un débat. Hein.
chacun
on parle du bon ou du mauvais là, hein, pas des jeux. Hein.
Mais donc en gros, t'auras beau faire des choix dits méchants d'ailleurs. Qu'est-ce qui est méchant, qu'est-ce qui est gentil, ça c'est un autre débat encore. Mais t'auras beau faire des choix plus ou moins méchants, ça ne changera rien et tu risques en plus de souvent vouloir être gentil car le jeu te bride. Tu vas te retrouver avec des shérifs qui vont essayer de te triper à chaque coin de rue. Dès que tu fais un truc, c'est fini.
t'es grillé.
Moi, ouais, ce que tu veux dire, c'est que le jeu va vraiment nous bloquer la
voilà,
progression méchant. Quoi.
Et je pense que c'est vraiment voulu de la part des développeurs pour quand même éviter que les gens se fixent trop sur des mentalités méchantes et s'identifient trop à la.
Ça, c'est Rockstar, hein, tu prends GTA.
Attends, Simon.
Ok, pardon. Ouais,
surtout en fait, pour le contexte du jeu, parce que GTA, la vidéo dans le chat, c'est ultra réaliste.
Ouais, voilà,
en
ouais.
Fait, pour pas choquer.
Ouais, et bah, moi, je suis vraiment d'accord avec toi.
C'est gratuite
ça,
dans
parce
la
que
vie,
quand on voit déjà.
De brider, la méchanceté des joueurs.
Surtout quand on voit les polémiques qu'il y a déjà sur les GTA et tout ça, t'imagines si en plus de buter n'importe qui, il se passait rien, personne t'arrête et tout. Je pense que ce serait encore pire au niveau
ouais,
de.
C'est vrai, mais...
Non, c'est sûr.
Les interdictions,
si
je sais pas, ça pourrait jamais sortir.
C'est pareil, bah, en fait, oui, dans la même idée, c'est un Skyrim, je l'ai joué il y a pas très très longtemps. Et quand tu fais partie de certaines guildes qui sont quand même, il faut le dire, assez méchantes, tes missions, tu galères parce que il faut assassiner des gens dans des villes, faire des choses, etc. Tu te retrouves avec une horde de gardes qui veut ta peau, et alors on est partout dans le.
Et voilà, c'est chiant pour un jeu qui te propose d'être bon ou méchant, quasiment en Skyrim, c'est ça. Il suffit que tu deviens méchant et après t'es bloqué parce qu'on va te faire chier, quoi.
Ouais, c'est ça.
Au
alors,
final, t'as pas vraiment de liberté dans le jeu, quoi.
Tu vas en prison et tu
voilà.
Payes ta. Moi, j'ai pris l'habitude, je fais ma mission et je paye
voilà.
Un petit dîme aux gardes.
Ça, c'est. Par politique, on est obligé de dire
c'est ce qu'ils essayent de nous faire comprendre aussi sûrement hein, de toute façon.
Donc concrètement, si vous voulez être méchant, jouez à Prototype et puis voilà.
Vous allez ouais,
flaguer
ouais,
des gens
dans
deux
sortira très bientôt d'ailleurs.
Ton expérience, c'est vraiment monter là-dessus puisqu'on est en fait seul contre tous.
C'est exactement ça.
Ouais, God of War, Prototype, tout ça. Oui, non, c'est des très bons exemples de jeux.
Ça fait du bien de quoi te défouler dans les jeux comme ça. Un bon God of War, un bon Prototype, et voilà, tu désingues des gens.
Là, en ce moment, je suis en train de faire mon ramassage sur Wii.
Ouais.
C'est un jeu en deux dimensions.
Il y a des jeux sur Wii? Ah,
oui,
première nouvelle.
Mais au moins, aussi beau Crayman.
Ah,
intéressant. Vanilla War, c'est
bien
un très beau jeu.
Tu veux une place chez eux, peut-être? Tu veux que
je
gars?
Non. Mais voilà, c'est un jeu où, dans le folklore japonais, c'est un peu comme Okami.
Un peu comme Okami, ouais.
Où en fait, on est une femme démon, on a deux personnages possibles, mais on a des ninjas, une sorte d'ennemi, le but c'est de tuer tout le monde avec nous.
À la Dynasty Warrior, quoi.
Un peu moins nombreux les ennemis quand même, c'est plus de grosses vagues, mais voilà. Les ennemis, on font dans le tas, on frappe avec tous ces effets de ralenti à chaque coup qui rentrent dans les ennemis. On a un sentiment de puissance et voilà, c'est comme de la foire. Tu peux pas trop à ce moment-là, tuer, mais pas pour moi, finalement.
Oui, c'est dans les beat'em all en général, quoi.
Voilà. À partir du moment où on nous propose de ne faire que le mal, je pense qu'on peut faire que le mal.
Et ben c'est sur ça qu'on va conclure ce débat, hein.
Donc
c'est
voilà,
une très bonne phrase.
Ce qu'on peut conclure, c'est que voilà, vous voulez être méchant, jouez à Prototype ou jouez à God of War. Si vous voulez être gentil, jouez à Aléa Passion. Et je pense que c'est.
Bah d'ailleurs, je crois que tu l'as acheté la semaine dernière.
Et j'assume totalement. Non, je déconne, c'est faux. J'ai pas de
Non, il dit ça là maintenant, mais moi je sais qu'il a ça chez lui, hein.
On en reparlera après.
Et c'est ce débat qui conclura notre premier podcast de serial-gamer.fr. Je vous remercie Simon et Guillaume d'être venus.
Merci à vous.
Et Ludo, hein, on se retrouve de toute façon dans deux semaines.
Dans deux semaines, c'est prévu.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao. Au revoir.